C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.
Bonjour, notre émission aujourd'hui proposée en partenariat avec l'association FestiPlanète et la MJC Espace Hélios de Lambreuil-les-Douai, là où se déroulait un ciné-débat autour du film Les Agités du Bocage, un film qui revient sur la transformation du paysage, notamment de la Vénois. Et c'est dans ce bout de territoire des Hauts-de-France que je vous emmène, précisément en Avesnois et en Thiérache, à la rencontre de l'association REI, l'association Refus des élevages industriels en Avesnois et Thiérache, représentée par sa présidente Thérèse Marie Cardon et par un membre bénévole de l'association Philippa. Une association que nous allons découvrir par la voix donc de sa présidente Marie-Thérèse Cardon.
J'étais prof d'art plastique et je suis actuellement retraitée.
Et vous êtes ?
Comptable dans une société de bâtiment.
C'est un métier fabuleux, ça, comptable dans le bâtiment.
Parfaitement, oui, il n'y a pas de problème. Je m'épanouis.
Un homme de chiffres ?
Un homme de chiffres et un homme de droit. Enfin, j'aime bien le droit.
On va justement parler également du droit, parce que c'est quelque chose qui doit tenir beaucoup de place au sein de l'action que vous menez dans l'association. Une association qui naît dans le territoire de l'Avesnois.
Elle est née dans le territoire, à la limite de l'Avesnois. En fait, cette association était tout d'abord un collectif. Un collectif donc de riverains qui ont tous signé donc une pétition en 2020 contre une extension d'élevage laitier à Catillon-sur-Sambre. Grâce à cette pétition, en fait, on a été tout de suite en contact les uns avec les autres et on a pu ensuite, quelques mois après, créer l'association donc Refus élevage industriel. Donc au tout départ, c'était donc contre un seul élevage industriel, enfin un élevage laitier industriel, aux pratiques industrielles plutôt.
C'est pas contre les vaches.
C'est pas contre les vaches, c'est pas non plus contre les agriculteurs. C'est surtout contre un système lié donc à la politique actuelle, la politique libérale, qui fait que on doit faire du profit et que même l'agriculture est utilisée maintenant donc par les financiers pour produire à outrance sans s'occuper donc des dégâts occasionnés dans l'environnement.
Quand les gens se mobilisent, c'est quoi ? C'est parce qu'ils craignent que finalement leur cadre de vie soit pollué par ces installations ? Ils craignent de nouvelles nuisances sur le territoire ?
Ils craignent, comment dire, les effets sur leur santé, sur leur environnement, sur leurs biens, parce que bon, ça impacte quand même la valeur des biens immobiliers, ça impacte la santé, ça impacte beaucoup de choses, quoi. Et puis après, c'est une certaine transparence aussi de la manière dont les autorisations ont pu être délivrées par la préfecture du Nord et par le préfet. Est-ce que ces autorisations sont vraiment, fondées ? Est-ce que les installations respectent les normes environnementales et les normes de santé. C'est ce que nous, on a pu démontrer que ça les respectait pas, quoi.
C'était quoi ? C'était ça ? C'était l'idée de se dire on va perdre dans notre cadre de vie, on va avoir de nouvelles nuisances ?
Quand j'ai rédigé cette pétition à l'époque, ce qui m'a choqué, c'est que cet élevage était un élevage de 400 vaches. Et que les bêtes étaient enfermées dans des structures bétonnées et qu'elles n'allaient pas pouvoir sortir et qu'il allait y avoir des allers-retours de camions qui allaient transporter le lisier à plusieurs vingtaines de kilomètres de là sur 13 communes et qu'il y aurait de la nuisance sonore, de la nuisance de la pollution également. On est en plein réchauffement climatique en plus. Enfin, vous voyez, donc je trouvais ça aberrant.
La question du bien-être animal, tout de suite, elle était présente dans cette opposition ?
Tout de suite, oui, bien sûr, bien entendu. Je préfère voir des vaches dans des prairies, en train de pâturer, que de les voir enfermées dans un bâtiment en béton.
Oui, mais il faut encore qu'il reste des prairies. On touche également cette fois-ci à la politique de l'occupation des sols.
Alors justement, là, c'est pareil. On s'est aperçu dans la Vénois qu'il y avait de plus en plus de retournements de prairies, de cultures, par exemple des cultures de pommes de terre, que les haies sont arrachées, etc. Il y en a encore, bien entendu, dans la Vénois, mais ils sont en train vraiment en ce moment de tout dégrader. Et on s'est aperçu, là, il n'y a pas longtemps, justement, il y a le problème des patatiers belges et néerlandais qui arrivent, qui occupent l'espace, qui retournent les prairies et qui ne respectent pas les normes par rapport aux pesticides, par exemple.
Alors, pour expliquer, c'est que le foncier agricole en France est parfois de 5 à 8 fois moins cher qu'en Belgique ou qu'aux Pays-Bas.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, ils n'ont plus du tout de terre pour cultiver, puisque beaucoup de zones ont été bétonnées en Belgique, et le foncier est moins cher en France. Donc, ils n'hésitent pas à venir nous polluer.
Pour mettre en œuvre des pratiques qui ne sont pas véritablement adaptées au cadre paysager.
Et qui ne sont pas écologiques, surtout.
Comment vous définiriez une pratique écologique ?
Une pratique écologique, pour moi, c'est par exemple c'est l'agriculture paysanne et bio qui respecte l'environnement parce que justement, ils ont des pratiques, ils ne mettent pratiquement pas de produits chimiques sur leur culture, et ce qui fait que l'environnement est préservé.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans un parc naturel régional, donc le PNR de la Vénois. Il y a une charte, avec des engagements de l'État, avec des ambitions, des objectifs. Donc tout ça, c'est bien défini. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les décisions préfectorales qui sont prises sur des projets tels que celles sur lesquels on se bat ne respectent pas la charte du parc naturel régional. Par exemple, sur le système fourrager qui doit être essentiellement basé sur l'herbe et qui ne pourra plus l'être puisque surface constante, ils multiplient leurs effectifs bovins par deux, quoi. Donc, passent de 150 à 300 vaches tout en conservant les mêmes surfaces agricoles. Donc, à un moment, ils ne pourront plus, approvisionner leur élevage sous la forme d'herbe, mais ce sera sous la forme de maïs. Donc, ce qui pose un problème par rapport à la charte du parc naturel et ce qui pose aussi un problème par rapport au milieu bocager qu'est la Vénois, quoi.
Cette charte, c'est quoi ? C'est quelque chose de cosmétique ? Si finalement l'État derrière donne et cautionne l'installation et la transition vers de tels types d'élevage ou de cultures telles que la pomme de terre sur le territoire ?
Là, il faudrait poser la question, aux décideurs. Nous, on n'est que des associations. Donc, politiquement, ça a été, mis en place depuis quelques années, puisque le PNR, ça remonte il y a de ça 20 ans, quoi. Donc, il y a des ambitions et on s'aperçoit que les ambitions, elles ne sont pas respectées, quoi.
C'est l'État le responsable qui laisse faire ou c'est l'exploitant qui vient s'installer pour mener de telles pratiques sur le territoire ?
Moi, je ne pense pas que ce soit l'exploitant. L'exploitant, il subit en fin de compte ce qu'on lui impose plus ou moins et qui vient de l'État et même de l'Europe. Depuis pas mal d'années, ce qu'on leur demande aux agriculteurs, c'est de toujours s'agrandir, produire. Et il y en a qui ne réfléchissent peut-être pas suffisamment loin et qui croient pouvoir gagner un peu plus d'argent en obéissant, entre guillemets, à ce que l'État leur demande. Et donc, ils n'hésitent pas donc, à s'agrandir, à s'endetter, à acheter de nouvelles machines, à toujours produire. Et finalement, certains se cassent la figure parce qu'ils s'aperçoivent au bout de quelques années qu'ils n'arrivent plus à rembourser leurs dettes, etc. Je trouve que c'est un système qui marche un peu sur la tête.
Vous pensez qu'un monde agricole relevant plus de la paysannerie dans tout ce qu'elle peut avoir de noble, c'est un modèle qui pourrait suffire à ce qu'un paysan puisse vivre dignement de son travail avec une qualité de vie suffisante ?
Je trouve que ce qu'il faudrait, c'est relocaliser l'économie et vraiment faire ce qui est de plus en plus demandé par la population civile, en fait, de pouvoir travailler directement avec les producteurs, c'est-à-dire acheter directement aux producteurs. C'est la vente directe maintenant qui est l'avenir pour notre société et pour l'humanité même et pour la planète. Parce qu'on ne peut pas encore pendant des années importer des produits qui viennent de très très loin, par exemple, pour nourrir par exemple les bêtes, du soja, etc., qui vient d'Argentine ou d'ailleurs, parfois avec des OGM, etc., alors que sur place, on pourrait très bien produire local, consommer local. Il y en a déjà qui le font, il y a déjà des maraîchers qui sont installés, qui font des bons produits bio, il y a des AMAP, etc., et je trouve que c'est ça l'avenir vraiment pour l'agriculture. C'est le maraîchage, par exemple, bio ou en maraîchage conventionnel, mais sans mettre trop de produits pour préserver l'environnement, préserver cette nature qui n'en peut plus.
Alors moi, je voulais dire que on est dans un cadre un peu particulier parce que, comme je l'ai dit, on est dans un parc naturel régional. Donc, il y a quand même des ambitions, il y a quand même des critères, de qualité au niveau environnemental, paysager, etc., etc. Ensuite, on est quand même près de Maroual, donc il y a une AOC Maroual avec, je dirais, des critères qui peuvent être plus qualitatifs que quantitatifs, hein, puisque le prix du lait peut être mieux valorisé, mieux payé, à l'éleveur laitier. Donc, l'élevage industriel, ça consiste à mettre des vaches, dans des systèmes de stabulation, les nourrir avec de l'ensilage, de maïs surtout, et donc d'appauvrir la qualité, de la production, alors qu'on est dans un AOC, et donc un AOC pourrait, tirer les conditions d'élevage vers le haut avec du pâturage, nourrir les bêtes avec un système fourrager plutôt, herbagé plutôt que sous forme de maïs, et donc d'avoir un niveau qualitatif beaucoup plus élevé que dans d'autres régions ou dans d'autres secteurs du département, quoi. Et donc c'est ça aussi ce qu'on reproche, quoi, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir avoir une production beaucoup plus qualitative, voilà.
Radio Scarp Sensée, la puce à l'oreille.
Des voyous des mers, je pense que le président a utilisé la bonne formule.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Des voyous des mers.
C'est effectivement une question très importante.
Voyous des mers.
Nous prenons des mesures de précaution parce que nous devons les prendre. C'est quand même du pastille.
Ce qui manque effectivement, c'est une législation.
C'est quand même du pastille.
Internationale contraignante, et c'est à cela que nous travaillons.
Nous prenons des mesures de précaution parce que nous devons les prendre. C'est quand même du prestige.
C'est parce que le prestige.
Nous sommes allés avec le Premier ministre pour.
C'est quand même du prestige. C'est parce que le prestige a envoyé de la marée noire. Et on est là et on va prendre toute responsabilité.
C'est quand même du prestige,
contraignante législation internationale.
internationale contraignante et c'est à cela que nous travaillons. Nous prenons des mesures de précaution parce que nous devons les prendre. C'est quand même dû au prestige, c'est parce que le prestige.
Je vais aller avec le Premier ministre pour que.
C'est quand même dû au prestige, c'est parce que le prestige a envoyé de la marée noire.
Dit on est là et on va prendre toute nos responsabilités.
C'est effectivement une question très importante parce que économie et écologie.
Albert Marker, l'environnementeuse. Aujourd'hui, dans La Puce à l'oreille, nous sommes à la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Douées en partenariat avec l'association FestiPlanète à la rencontre de l'association ROI, Refus des élevages industriels en Avesnois et Thiérache, représentée par sa présidente Marie-Thérèse Cardon et Philippe, membre de l'association.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Est-ce que votre association ne risque pas d'être perçue comme un repère de militants agri-bashing en quelque sorte ?
Non, justement non. Et on est simplement une association qui refuse que l'environnement soit dégradé par cette agriculture productiviste qui emploie plein de produits chimiques. Là, il y a le glyphosate qui vient d'être à nouveau autorisé pour 10 ans. Mais il faut qu'on arrête. Là, l'eau est polluée partout dans les Hauts-de-France. Vous avez entendu parler quand même du rapport de l'ANSES en 2023 qui dit que les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Bretagne sont les régions où l'eau est la plus polluée. Donc il faut qu'on arrête ça. C'est un système qui ne fonctionne pas et qui est, c'est une aberration pour moi.
Il ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que l'Europe prend des mauvaises décisions, parce que l'État n'est pas capable de... ou parce que finalement le consommateur le citoyen ne s'y intéresse pas suffisamment.
Je pense que c'est l'État qui est responsable en ce moment. Là, par exemple, pour le glyphosate, l'emploi du glyphosate, on sait très bien que l'État s'est abstenu au niveau du vote. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là. D'un côté, l'État voudrait qu'on fasse plus de bio, et le bio ont des difficultés parce que l'aide au maintien du bio, ils ne l'ont plus. Il y avait une subvention pour le maintien du bio, ils ne l'ont plus, ça a été supprimé. Alors d'un côté, on dit qu'il faut plus de bio, qu'il faut qu'on relocalise l'économie, qu'il faut qu'on préserve l'eau. Alors on fait un tas de projets, il y a le plan vert, les fonds verts, 75 millions d'euros qui vont être attribués pour préserver l'eau, la ressource en eau dans les Hauts-de-France, etc. Et en même temps, tout se passe à l'envers, qu'on a l'impression que les actes ne suivent pas du tout les propositions et les idées.
Moi, je voulais rebondir un peu sur l'écoterrorisme, enfin toutes ces notions-là, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une petite association. La consultation du public énumérait les problèmes qui se posaient dans les dossiers sur lesquels on s'opposait, quoi, de manière très citoyenne et très constructive. Donc, on a indiqué exactement ce qui se passait. La préfecture nous a pas écoutés, personne nous écoute. On s'aperçoit plus on rentre dans le fond du sujet, dans les dossiers d'anomalies avis qui sont quand même assez perturbantes, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les rejets d'azote, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les périmètres de protection rapprochés d'eau, c'est-à-dire qu'on surpâture, on détériore les ressources en eau, etc., etc. Donc tout ça, on a des preuves à l'appui. On a demandé à certains élus de nous soutenir, enfin de poser des questions directement aux services préfectoraux, qui ne répondent pas. Ils font une politique d'autruche, quoi. Donc je veux dire qu'à force, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y ait des gens qui se, comment dire, radicalisent, qui deviennent un peu, comment dire, un peu fous, quoi. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que dans certains dossiers, l'État, les services qui ont pris ces décisions-là, ne réagissent pas, laissent tomber, enfin, mettent la poussière sous le tapis et essayent de, comment dire, de passer à autre chose, quoi. Et donc, ça peut cristalliser, je dirais, la pression et puis le mécontentement de certaines personnes. On n'en est pas là, nous, on est vraiment dans un acte purement citoyen, quoi.
Vous étiez prof d'art plastique, vous êtes dans le domaine de la comptabilité. J'ai envie de dire, moi, généralement, je n'ai pas allé donner des leçons comptables à l'ordre des experts comptables et je n'ai pas donné des leçons de pédagogie, finalement, à des professeurs. Est-ce que le monde agricole vous tient ce même discours en disant « Vous ne savez pas de quoi vous causez parce que vous n'êtes pas dans le milieu ». Est-ce que c'est des choses que vous entendez, ça ?
Non, pas forcément, parce que ils savent très bien que dans les dossiers sur lesquels on a travaillé, ils sont borderline, quoi. Donc ils savent très bien qu'il y a eu des fausses déclarations. Et ensuite, enfin, faut pas être expert agricole, il faut pas être, c'est simplement un travail de citoyen, quoi. Vous regardez un dossier, c'est de la logique, quoi. Vous regardez les rejets d'azote, vous regardez certaines choses, et puis vous apercevez que il y a des dysfonctionnements. Enfin, ça, c'est pas logique. Enfin, c'est qu'une histoire de logique en réalité. C'est pas technique, quoi. Moi, j'ai pas de leçons à donner aux agriculteurs. Ça, il y a pas de problème. Je veux dire, après, il y a le bon sens, quoi. Et on s'aperçoit que dans ces dossiers sur lesquels on a travaillé, le bon sens, il y en a pas, quoi.
Par rapport à cette question de bon sens et de ne pas forcément être obligé d'être du milieu agricole pour faire entendre une parole se veut sage et raisonnable.
On a une parole sage et raisonnable, hein, simplement, nous, ce qu'on défend, c'est l'environnement. Et on voit que les pratiques des agriculteurs productivistes ne respectent pas, justement, l'environnement. Et on a l'impression même qu'ils n'ont plus aucune attache avec la nature, à la limite. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'ils sont hors sol, un peu comme les... hors sol, un petit peu comme l'agriculture est hors sol actuellement, un peu partout. Dans les fermes usines où on cultive des tomates hors sol, là-bas en Bretagne, où, vous voyez, on a l'impression qu'ils ne voient plus que ils n'ont plus en tête que produire, produire, produire. Ça devient complètement fou, quoi. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, alors moi, je veux dire, on est sur de la réglementation, quoi. Enfin, c'est du droit, quoi. Donc, par exemple, la directive nitrate. Donc, une directive nitrate dit que vous ne pouvez pas épandre plus de 170 kg d'azote par hectare. Quand vous arrivez sur des dossiers où ils en épandent 260, c'est qu'il y a un problème, quoi. Quand vous voyez qu'il y a des surpâturages, donc avec des jours de présence effective qui ne doivent pas dépasser un certain seuil, donc... Techniquement, c'est 650 JPE par hectare. Donc, vous voyez, on commence un peu à connaître les termes. Et quand vous voyez que vous avez...
Ça veut dire quoi, JPE ?
Alors, jour de présence effective. Et quand vous voyez que sur un réservoir de biodiversité, donc où vous avez des intérêts faunistiques, floristiques, enfin surtout floristiques, vous avez des surpâturages de vaches qui vont effectivement endommager la faune et la flore locale. C'est pas technique. Je vais vous dire un autre cas d'exemple. Quand vous avez un exploitant qui vous dit voilà, je vais mettre en pâturage sur tel îlot 60 ou 200 vaches, et que quand vous regardez le plan, l'îlot est déclaré en terre labourée. D'accord ? Donc terre labourée. Je vois pas comment un éleveur laitier peut faire pâturait ses vaches sur 40 ou 50 hectares de terre labourée. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc ça, c'est des choses que vous retrouvez dans les dossiers, quoi. Mais il y en a pas qu'un. Hein. Ça s'accumule, quoi. Enfin, je pourrais passer la soirée à vous donner des exemples, quoi. Mais enfin, vous apercevez que c'est de la logique, c'est du bon sens. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est pas une question de savoir, enfin, d'être plus sachant que les autres, quoi. Enfin, c'est une question de lecture et puis d'analyse, je dirais, cartésienne des dossiers, quoi.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Thank you.
La puce à l'oreille, à l'instant c'était Ridan. Aujourd'hui, notre émission, réalisée en collaboration avec la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués et l'association FestiPlanète pour aller à la rencontre de l'association Refus des élevages industriels en Avesnois et Thiérache, association ROI, représentée par Philippe, bénévole de l'association, et Marie-Thérèse Cardon, présidente de ROI.
C'est de la folie, quoi. Enfin, je trouve que devoir utiliser les terres uniquement pour cultiver de la patate pleine de produits chimiques, parce que souvent, très souvent, ce sont les Belges ou les Néerlandais qui cultivent. Et je trouve que c'est vraiment complètement... On marche sur la tête, quoi. C'est pas possible. On peut pas continuer dans cette lancée-là. Enfin, franchement...
Moi, je serais peut-être un peu plus nuancé. Moi, je dis, à partir du moment où le projet respecte les règles environnementales, le droit de l'environnement, le droit sanitaire, à partir du moment où le projet est conforme à la législation, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut pas empêcher des gens de faire des installations qui sont conformes à la réglementation. Ça, ce n'est pas possible. Après, on peut essayer de limiter les impacts, de faire des choses un peu plus vertueuses, quoi. Mais à partir du moment où ça respecte la législation, on ne peut pas s'y opposer. Là, dans notre cas, c'est vraiment différent. Là, on est sur des installations qui ne respectent pas les règles environnementales et les règles sanitaires. Donc là, c'est la ligne blanche qui est franchie et je veux dire, c'est inadmissible, quoi.
Il y a moyen de faire stopper ces projets d'installation, d'extension d'élevage.
Le moyen, ce serait que les agriculteurs qui n'ont peut-être pas réfléchi suffisamment à l'avenir de l'environnement et de comment on va subir la planète. Enfin, je veux dire, on peut pas continuer. Dans le parc naturel régional, on est quand même en pleine zone naturelle écologique et faunistique. Il y a une zone Natura 2000, on continue à arracher les haies et on continue à labourer et à planter des pommes de terre, quoi. Des pommes de terre qui appartiennent donc à des producteurs belges et néerlandais. Donc on sait très bien qu'ils mettent beaucoup de produits chimiques sur ces pommes de terre. Et ce que je comprends pas, c'est comment ils peuvent... dire qu'ils aiment la nature et qu'ils travaillent avec la nature, c'est ces gens-là. C'est pas vrai, sont pas des agriculteurs pour moi. Sont des capitalistes, quoi, tout simplement.
Oui, je voulais préciser. Donc, entre 2019 et 2021, ce sont 30% des dossiers qui ont été instruits et qui ont donné, qui ont été permis d'agrandir leurs élevages. Donc, 30% des dossiers qui ont été instruits par la préfecture du Nord dans le cadre d'agrandissement d'élevage étaient situés sur un axe de 20 km situé sur nos communes. Donc, de Petit Failly, on va dire, jusqu'à Mazinguien. Donc, vous tracez une ligne de 20 km. 20 km, vous avez 9 exploitations laitières qui ont été autorisées à agrandir leurs élevages. Et ça représente 30% des dossiers instruits par la préfecture du Nord sur cette période-là. Donc, c'est qu'il y a vraiment eu un problème. Vous pouvez consulter ce site. Enfin, c'est le site des installations classées pour l'environnement de la préfecture du Nord. À partir de 2022, la date à laquelle on a commencé à déposer tous nos recours en annulation d'arrêtés préfectoraux, on est passé d'une dizaine de dossiers à 3 dossiers en 2022 et à 1 dossier en 2023. Donc ça veut dire que...
Mais est-ce que les dossiers antérieurs ont tous été acceptés ?
Oui, à partir du moment où le dossier était enregistré, enfin à partir du moment où le dossier était déposé à la préfecture, il était de facto autorisé.
Mais c'est peut-être parce que justement il y a eu suffisamment d'extensions qu'aujourd'hui il n'y a plus moyen d'en faire.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand vous regardez les statistiques, vous regardez 2020, vous en avez à peu près une quinzaine, 2022, vous en avez, etc., etc. Donc, mais vous apercevez qu'en 2023, il n'y a plus qu'un seul dossier. Donc, c'est qu'il y a un petit problème, quoi.
Donc c'est-à-dire que l'investisseur peut penser que je vais pas aller là-bas parce qu'il y a des irréductibles qui vont m'empêcher de tourner en rond ?
Non, c'est la préfecture qui met soit les dossiers dans le placard, sous le coude, mais qui s'étape, elle savait très bien quoi. Mais ils savent très bien qu'ils sont pas, ils sont pas clean sur ce genre de dossier quoi. C'est clair et net quoi.
Vous êtes des vigies en quelque sorte. Vous êtes là pour faire attention, lanceur d'alerte ou
lanceur d'alerte plutôt.
Non. Moi, citoyen, c'est tout. Citoyen.
Citoyenne et lanceuse d'alerte, si quand même.
Moi, je pense que c'est un travail de citoyen et tout citoyen doit pouvoir, accès à cette information doit pouvoir exercer son droit de veillance quoi. C'est de la bienveillance. C'est de l'intérêt général. Hein. On se focalise pas contre, mais on dit il y a une ligne blanche, il faut pas franchir. C'est quand même les dispositions légales, réglementaires. Il y a du droit. On est tous égaux en droit, vous comme moi, si vous avez un projet. Si votre projet n'est pas légal, je vois pas pourquoi vous pourriez avoir une autorisation et pourquoi moi je pourrais pas l'avoir, ou inversement quoi. Donc on est tous égaux en droit, et donc c'est vraiment un travail de citoyen et pas forcément de lanceur d'alerte. Enfin moi j'aime pas ce terme. Moi je dis c'est un travail de citoyen, voilà.
Pour retrouver l'association, pour rentrer en contact avec vous, on vous trouve comment ?
Il y a une page Facebook qui s'appelle Refus des élevages industriels. Il y a un site internet qu'on peut trouver justement sur la page Facebook. Et donc sinon, une adresse mail et un numéro de téléphone, tout ça c'est sur la page Facebook, en fait, Refus des élevages industriels.
Vous avez besoin de quoi prioritairement aujourd'hui pour l'association ?
On a besoin d'argent parce qu'on a déposé 3 recours. Ces 3 recours ont été financés en partie par 2 associations reconnues nationalement, dont Picardie Nature. Nous avons besoin d'argent parce qu'on a quand même déposé 3 recours. Donc ce sont des grosses sommes d'argent pour payer les avocats. Donc on a aussi mis en ligne une cagnotte en ligne sur Hello Asso. Pour récupérer un peu d'argent et pouvoir continuer à pouvoir être vigilant et continuer notre travail de lanceur d'alerte.
De citoyens. La puce à l'oreille. Aujourd'hui, nous étions donc avec Marie-Thérèse Cardon et Philippe pour nous présenter l'association REI Refus des élevages industriels en Avesnois et Thiérache, émission réalisée en partenariat avec la MJC Espace Hélios de Lambreau-les-Doués et l'association FestiPlanète. Merci, à bientôt sur Radio Scarp Sensé.
La puce à l'oreille. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 105.